Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 374. Et on réinterroge quelqu'un qu'on avait déjà interrogé pour ceux qui sont tout au début de format radio, Denis Lamontagne, qui est le fondateur de Thought Cursus. Et donc, il va nous expliquer comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce média qui est un média hyper intéressant. Je vous invite tous à vous y abonner après l'avoir écouté, si vous trouvez qu'il en vaut la peine. En tout cas, merci beaucoup, Denis Lamontagne.
Oui, bonjour.
Denis, alors on démarre Thought Cursus. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas?
Tu m'aurais posé la question il y a un an, j'aurais dit autre chose. Je te dirais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un, pour prendre l'expression anglaise, un think tank, un groupe de réflexion. Et à peu près tous les rédacteurs de Top Cursus sont venus par affinité, simplement parce qu'ils trouvaient notre approche intéressante. Notre approche, qu'est-ce qu'elle est? C'est que comme tout s'apprend, on s'intéresse pratiquement à tout, mais on l'aborde toujours de quelle manière on peut l'apprendre ou de quelle
Dans le monde,
manière.
simplement dans le monde de la formation, où ça sort un peu du cadre de la formation.
Bon, je vais prendre un exemple. Il y a 2 semaines, on a fait un dossier sur la philosophie.
Très
OK?
bien.
Alors, mais on l'a orienté sur la philosophie autour de l'intelligence artificielle. Alors, ça s'appelait Philosophia. Et alors, chaque rédacteur a abordé le sujet en quoi les philosophes peuvent nous être utiles autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis, évidemment, appliqué dans un contexte éducatif. Mais on peut prendre n'importe quel sujet, que ce soit l'ingénierie, les langues, la pose du plancher. Comment on apprend ça? Comment on l'enseigne? Quels sont les matériaux qu'on utilise, comment qu'on l'appréhende, comment qu'on s'en approche. Ce qui fait qu'on peut prendre n'importe quel sujet et on s'y intéresse d'une façon, je dirais, pédagogique, mais un petit peu plus large que ça quand même. Comment on s'y intéresse?
Alors, depuis quand ça existe, votre cursus?
Depuis 1996, en fait, on a lancé la première. Comment je te dirais ça? Au départ, c'était une base de données sur les cours à
D'accord.
distance. Là, moi, j'avais allumé sur le fait qu'Internet, ça allait être l'avenir. Et bon, on a ramassé tous les cours à distance papier et on a fait une
D'accord.
base de données. Bon, ça a pris quelques mois pour se rendre compte qu'une base de données, c'est terriblement ennuyeux. Ce qui fait qu'on a dit, bon, mais peut-être qu'on pourrait se mettre à parler de qu'est-ce qu'on apprend dans ces cours-là. Fait qu'on a parti le média TOT. Qui s'intéressait à la formation à distance. Bon, et graduellement, bon, comme le concept même de formation à distance se dissout, il se fait plus de formation à distance dans les écoles traditionnelles qu'en dehors maintenant. Fait que, bon, je me dis, allons-y, on abandonne formation à distance et on parle d'apprentissage tout court. Et puis, et la culture s'est mélangée à travers ça. La culture, on entend les musées, les bibliothèques, l'art en général. Qui est aussi une activité, je dirais, intellectuelle, qui peut être passionnante, ce qui fait que maintenant, c'est Thought Cursus, formation et apprentissage numérique. Donc, culture, formation et culture numérique, quelque chose du genre. Je ne me rappelle plus, ça fait trop
Alors,
longtemps.
et ce qui est génial, c'est que en fait, dessus, il y a des annuaires. Donc, ça veut dire qu'on a des grilles de lecture, on peut s'y retrouver, on peut faire de la recherche. Donc, ça permet à chacun, quand on cherche quelque chose, d'avoir. Il y a un bon moteur de recherche, d'ailleurs. Il faut s'abonner, ça coûte combien?
Ben en fait, je dirais que 80% ou 75% de nos articles sont gratuits. Tu peux t'abonner, ça ne coûte rien, mais si tu veux accès aux articles payants, c'est-à-dire aux articles qui s'intéressent, qui sont un peu plus professionnels, qui s'intéressent plus aux formateurs où on va discuter de pédagogie ou de techniques d'apprentissage, ou peu importe, là. Il y a un certain nombre d'articles qu'on dit professionnels, qu'eux autres, ben oui, il y a un tarif, là. Ça peut être 10 euros par mois ou 90 euros par année, ou si vous êtes une institution, c'est à peu près 385 euros par année, mais pour l'institution. Ce qui fait que quand une institution prend un abonnement, comme si votre bibliothèque prend l'abonnement, bon, ben, vous avez accès. Tout le
Oui,
monde
bien
de
sûr.
l'institution a accès.
Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet déjà d'essayer sur le gratuit. Comme ça, on voit les auteurs. Il y a certains qu'on connaît, Denis Christol, je pense comme ça à lui spontanément,
Oui.
qui vient souvent à format radio. Et donc, ça
Ah
permet
ouais.
de se dire, est-ce que j'aime le format? Est-ce que je m'y retrouve? Et donc, finalement, l'essayer, c'est l'adopter, disait la recette. Donc, ça, c'est bien. Alors, tu disais tout à l'heure que tu es un think tank. Mais un think tank, c'est aussi une structure militante. Pourquoi tu milites?
Oh mon Dieu, ça c'est une très bonne question. Pour moi, l'institution scolaire, comme elle est faite actuellement, elle sert d'autres intérêts que ceux des étudiants, si tu veux. Elle sert beaucoup d'intérêts économiques, elle sert beaucoup d'intérêts étatiques, ce qui n'est pas mauvais, là, mais il y a d'autres formes d'intérêts. Par exemple, si on prend juste l'intérêt écologique ou l'intérêt social des gens qui sont très peu servis par l'école. Je veux dire, pour moi, enfermer des élèves 8 heures par jour entre quatre murs de classe, c'est presque un non-sens. Comment ça se fait qu'on maintient cette structure? Ça me dépasse. Je veux dire, j'ai quelque chose. Alors, oui, c'était une partie de mon militantisme. Dans ce sens qu'on, oui, on parle des écoles, de faire de la classe à l'extérieur, oui, on
Hors des
parle
murs.
d'apprentissage à distance en dehors de l'école, oui, on parle de l'apprentissage à la maison, toutes ces choses-là. Mais fondamentalement, pour moi, comment je dirais ça, l'enseignement idéal, c'est il y a un intérêt chez une personne par rapport à un sujet. Et il y a un flux qui se crée entre cet intérêt-là et le sujet. Le rôle des aides, des enseignants, de l'école devrait être simplement d'entretenir, de susciter, d'entretenir ce flux-là jusqu'à temps que l'intérêt soit consommé. Quand on a compris, c'est fini, on passe au suivant. À nouveau, il faut recréer un intérêt, etc. Mais c'est l'individu qui sait ce qu'il en veut. Et quand je regarde des taux d'analphabétisme après 12 ans d'école qui sont de l'ordre de 25 %, je veux dire, voyons donc, je veux dire, on aurait dû. C'est évident que le problème, il est pas rendu en terminale. Le problème, il était quelque part au primaire. Comment ça se fait qu'on s'en est pas occupé? Comment ça se fait qu'on persiste dans des démarches où, visiblement, il n'y a plus le flux? Il n'y a plus l'intérêt de la personne par rapport au sujet. Et quand je regarde toute la pédagogie, si tu veux, qui est centrée autour de l'étudiant, alors que je me dis, non, si on va à l'école pour apprendre quelque chose, ce qui doit être dans le milieu de la place, c'est le sujet. Et regardons s'il y a un flux entre le sujet et la personne. Et s'il n'y a pas ce flux-là, ben, occupons-nous de le créer, parce que s'il n'y a pas, il n'y a rien qui se passe. Absolument rien qui se passe. Bon, un autre point,
Et
si
de oui, vas-y, je t'en prie, un autre point.
et un autre point que moi j'ai regardé, bon, maintenant, ce flux-là, qu'est-ce qui le bloque le plus souvent? Le plus souvent, et c'est tellement fondamental, et je ne comprends pas quand c'est que ce n'est pas à la base même de la formation des maîtres, ce sont les mots. Quand un étudiant ne comprend pas un mot, tout ce qui se rattache à ce mot se rattache après rien, ce qui fait que le flux est bloqué de façon immédiate et radicale. Je veux dire, tout à l'heure, tu as employé un mot quand on préparait cette entrevue, tu as parlé d'épiphanie. Oh mon Dieu, épiphanie. Ce n'est pas un mot qui est clair pour moi. Okay? Ça a une connotation un peu religieuse, ça a une connotation un peu d'illumination, mais c'est pas, pour moi, je n'ai pas la définition précise. Donc, tu emploies ce mot-là et dans ma tête, il y a un flou qui se crée. Et tout ce qui va se rattacher à cet ensemble-là va demeurer dans un flou. J'aurais plus aucune certitude. Ce qui fait qu'on voit que les performances des élèves diminuent de mois en mois parce que ce nombre de flous-là, d'imprécisions dans le vocabulaire, de mots incompris qu'on laisse. Ça fait juste s'accumuler. Bon, je me dis, ben, et à ce moment-là, on pourrait véritablement révolutionner l'éducation si on s'occupait simplement de s'assurer que le flux est préservé, que chaque mot est compris. Et
Et
bon,
dans le
c'est un
flux,
exemple.
ça peut être aussi la montée en puissance des mots. Et donc, épiphanie, au début, on ne le comprend pas forcément. Finalement, on explique avec Emmanuel Lévinas, on donne le sens du mot. Et donc, petit à petit, on peut s'asseoir sur ce mot pour dire autre chose. Et donc, après, il y a donc une pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ce n'est pas d'avoir que des mots simples, bien au contraire, c'est d'avoir une esthétisation de la formation pour justement tirer les gens vers le haut, le fameux ascenseur social, la méritocratie, quelle que soit la définition du haut, bien sûr. Qu'est-ce que tu en
Oui.
penses?
Ben, oui, tout à fait. Et un mot qu'on a clarifié une fois, épiphanie, par exemple, si je l'utilise juste à Noël, puis je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir oublié, je l'utiliserai pas. Effectivement, la répétition, c'est quelque chose d'utile.
Oui, exactement.
C'est comme ça qu'on développe une culture.
Et oui.
Et c'est comme ça
Et
qu'on
donc, et
s'assure.
derrière une identité, et est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de se dire, grâce à l'identité, je me retrouve à des gens qui sont identiques, par exemple des vendeurs dans l'entreprise, des gens de marketing, et finalement, derrière, une fois qu'on a ce socle commun, eh bien, on apprend ensemble, de pair à pair ou comme on veut, ça permet justement de créer le fait de ne pas apprendre tout seul, cet émiettement.
Oui, ah oui, ça c'est une des autres positions. L'école est une institution intéressante parce qu'elle a plusieurs avantages potentiels. Entre autres, le groupe, ça c'est une force, avoir plusieurs avis, pouvoir discuter, ça demeure définitivement une force. Un autre avantage qu'elle a et pour moi sur lequel elle doit tabler dans le futur de façon très importante. C'est avec l'apparition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a un effet, elle a beaucoup d'effets, en fait, puisqu'elle est utilisée à peu près dans tous les milieux. Et dans le milieu du travail, les premiers postes qui sont éliminés par l'intelligence artificielle, ce sont les postes de débutants. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle a pratiquement toute la connaissance qui est disponible, on y a accès. Elle nous la présente, mais elle n'a aucune expérience. Elle ne sait pas si c'est vraiment applicable. Un jeune qui sort de l'école, il a beaucoup de connaissances, mais aucune expérience. Il est au même statut que l'intelligence artificielle, sauf que l'intelligence artificielle a beaucoup plus de connaissances que lui. Ce qui fait que sans expérience, on n'a pas besoin de lui. On a déjà l'intelligence artificielle. Donc, la seule rôle comment je fais ça, intelligent ou significatif que l'école peut avoir, c'est de donner de l'expérience. Donc, tout l'aspect pratique des connaissances doit être mis en œuvre ou doit être expérimenté à l'école pour que l'étudiant, quand il sort de là, il puisse dire, j'ai de l'expérience. Je comprends, par exemple, s'il est sorti en ingénierie, je comprends l'importance du sol, des analyses de sol en premier. C'est ce qu'on fait. Mais là, j'ai de l'expérience, parce que j'ai fait des expériences. Un étudiant qui arrive puis qui comprend pas qu'on ne construit pas quoi que ce soit d'imposant sur un sol sans l'avoir sondé, je suis désolé, ce qu'il va construire, ça va s'effondrer ou ça ne sera pas long qu'on va le dire, bon, tant soit de là, on va te mettre comme technicien, on ne te mettra pas comme ingénieur.
Et derrière, ça permet de comprendre la mécanique d'analyse, de se mettre en distance, on dit conscientisation souvent, pour se dire que la même expérience peut être transposable dans un secteur qui n'a rien à voir.
Ben exactement. Ça, c'est l'autre chose, savoir faire la différence entre les similarités puis les identités et les différences. Je veux dire, c'est la façon de classifier les choses. On peut dire, bon, par exemple, un chat est différent d'un lion. Tous les chats, toutes les races de chats sont des chats. Je suis capable de voir les similarités, mais je peux voir aussi les différences. Tous les félins ont des similarités. Mais un chat, ce n'est pas un lion ni un tigre. Et puis, bon, et c'est cette capacité de faire des regroupements, si tu veux, de voir quelles sont les similarités, quelles sont les différences, quelles sont les identités. Et ça, pour moi encore, l'école apporte ce genre d'expérience-là, ce qu'une intelligence artificielle a plus de misère à faire.
Et pourtant, l'intelligence artificielle est capable d'identifier des chats, les catégories de chats, etc. Donc, au final, elle est capable de conceptualiser. Au
Oui,
final,
mais
est-ce
elle
qu'elle
n'est
n'est pas
pas capable
capable?
de créer la catégorie.
Oui.
C'est l'individu qui va être capable de dire, ah, moi, je peux voir que Il y a des catégories, des sous-catégories. Il est capable de voir, de mettre les choses en contexte. Une intelligence artificielle fonctionne bien. Plus qu'on lui donne de contexte, plus qu'elle va être pertinente. Mais sans contexte, l'intelligence artificielle, elle dit n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai fait un test, avec une photographie qui était prise dans un restaurant lors d'un événement. Et l'intelligence artificielle a dit, bon, toutes sortes de choses sur pardon, elle a dit, c'est dans un contexte francophone parce qu'il y avait une affiche en haut. Le décor était très, très bien. Elle dit, c'est un restaurant haut de gamme. Cependant, c'était marqué sur une des choses affichées au mur, c'était marqué aile de poulet à 1 $. Il n'y a pas de restaurant haut de gamme qui va présenter des ailes de poulet à 1 $. Elle n'est pas capable de faire le rapport entre la décoration, oui, et ce qui est affiché. Ben, un individu est capable de le faire encore. Ce genre de choses-là, en fait, encore récemment, j'ai discuté avec des experts vraiment en intelligence artificielle. Et discutait de. Y a un terme, j'ai oublié le terme qu'ils ont employé, mais c'était de mettre plusieurs priorités ou plusieurs choses importantes en même temps, mais de les mettre en ordre de priorité. Et quand il y a plusieurs agents qui sont programmés, ils sont capables d'en mettre 2 ou 3, mais ils ne sont pas capables d'en mettre plus parce que ça devient immensément complexe. Alors qu'un individu, lui, est capable d'établir les priorités ou les ordres. Puis les ordres peuvent changer selon le contexte. Je veux dire, quand tu fais ton lavage, tu mets pas le linge tout dans le même tapon, mais ça peut arriver dans certains contextes, si c'est plus sale, que tu vas faire des choses que tu ne ferais pas normalement. Et c'est ce genre comment je peux dire, de priorisation qu'une intelligence artificielle est actuellement n'est pas capable de faire.
Mais est-ce que finalement l'intelligence artificielle n'est pas... On voit qu'aujourd'hui, avec la voix, elle peut poser des questions, elle peut entraîner l'apprenant, donc elle peut le
Oui.
challenger, elle peut être conseil, coach, etc. Finalement, est-ce que ça ne devient pas un formateur 24 heures sur 24 si moi j'ai envie de me former?
Ah, totalement. Écoute, il y a même une option maintenant sur OpenAI qui est. Non, c'est sur Google, je m'excuse, c'est sur Google, sur Gemini, où on a le mode apprentissage. Et quand vous rentrez dans le mode apprentissage, c'est prodigieux. Et puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que les écoles vont faire avec ça?
Alors,
Ben, je
qu'est-ce
veux
qu'il y a
dire,
dans le
ça
mode
fait.
apprentissage pour ceux qui ne connaissent pas?
Comment?
Qu'est-ce qu'il y a dans le mode apprentissage?
Ben, en fait, ça te pose des questions, puis selon ton niveau de réponse, ça s'adapte et tu dis qu'est-ce qui t'intéresse, il te répond, c'est vraiment le chat, là, je veux dire, et puis il t'avance. T'avances avec ça. À un moment donné, j'ai demandé comment faire pour construire un four à micro-ondes. Alors, il me répond, ben, c'est probablement au-delà de tes capacités. J'ai dit, oui, OK, d'accord. Pourquoi? Et puis, ben, on a échangé. Puis finalement, après 20 minutes d'échange, je suis arrivé à la conclusion que oui, je suis parfaitement d'accord avec toi que c'est hors de la portée de tout individu.
Et ce qui est très bien dans ce mode, c'est qu'il est vocal aussi, si on veut.
Ah, ça, je ne l'ai pas essayé. J'aime
Mais
pas
ce qui permet d'avoir, c'est plus facile pour beaucoup de populations de parler que d'écrire.
le.
Et donc, ça permet d'avoir une empathie numérique différente, donc une relation d'une nature différente.
Oui. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que qu'est-ce que les écoles vont pouvoir faire avec ça,
Oui.
c'est supérieur à n'importe quelle relation avec un professeur. Donc, le professeur, il faut qu'il change de rôle, de position. Et puis, c'est là que moi, je rentre dans l'aspect pratique, l'aspect simulation, l'aspect discussion. Ce que tu peux. En tout cas, avec l'intelligence artificielle, tu peux difficilement. Comment je te dirais ça? Quand je regarde les effets que ça a sur les gens, je viens encore de lire une étude de KPMG sur les effets sur les étudiants. C'est un peu dramatique. Les étudiants préfèrent discuter avec l'intelligence artificielle qui ne va pas les contredire, qui ne va pas les mettre mal à l'aise, alors que avec leurs compatriotes, ça risque d'être plus difficile. Sauf que ça fait des gens qui deviennent extrêmement fragiles finalement.
Effectivement.
Et bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça? D'après moi, il va y avoir un ressac, ça ne sera pas très long, où les étudiants vont dire, OK, il y a des doses à tout, là, puis il y a une dose d'intelligence artificielle. Alors,
Est-ce que finalement, que ce soit la formation, l'école, c'est pas aussi pour faire du social, faire que les gens se rencontrent et donc se frottent un peu les uns aux autres, Montaigne disait, se liment les esprits, mais aussi se rencontrent et donc ça permet, et ça, l'intelligence artificielle ne le fait pas. Est-ce que c'est pas ça l'avenir de l'école, de la formation? de réunir
Exactement.
les... Hein,
C'est ça, je
d'accord.
pense qu'on a les deux points, c'est l'aspect pratique, l'aspect social. Et puis, en dehors de ça, il faut apprendre à utiliser ces outils-là correctement. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont formidables, mais je les ai toujours, en fait, tous les parents vont dire ça, mais bon, c'est quand ça vient plus de l'extérieur que les gens disent, ah, vraiment, vous avez bien réussi avec vos enfants. Bon, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que très tôt, on les a mis devant le fait, si tu ne te contrôles pas, c'est les autres qui vont te contrôler. Alors, apprends à te contrôler. Puis je me rappelle très bien que quand ils regardaient plus de 2 heures de télévision en ligne, là, nos enfants devenaient impossibles. Je me dis, là, maintenant, mais qu'est-ce que vous avez? On ne peut plus rien vous dire. Puis là, et on leur a fait observer quand est-ce que ça arrivait, ça. Puis ça arrivait toujours quand ils faisaient plus de 2 heures de télévision, puis même un peu au-delà d'une heure, là, il commençait à être comme ça. La raison, si on peut en discuter pourquoi, pour moi, c'est une question que pendant quelques heures, tu reçois un flux rentrant constamment, tu es passif, tu fais juste recevoir un
Oui,
flux
bien sûr.
rentrant. Et quand quelqu'un te demande quelque chose, c'est encore un flux entrant. Là, ben, tu réagis, non, je ne veux plus de flux entrant. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait que très rapidement, nos enfants se sont ajustés et ont dit, bah, après 1 heure de TV, je passe à autre chose parce que j'ai pas de fun, j'ai plus de plaisir après ça. Ce qui fait que, bon, on n'a jamais eu besoin de faire de discipline avec ça. Et même chose avec Internet. Tu sais, un matin, ils se couchaient à 11 h minuit, puis le lendemain matin, ils disaient, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Ben, je lui dis, écoute, règle ton problème, tu sais. Puis, c'est arrivé une fois qu'on a coupé Internet à 11 h, il n'était pas de bonne humeur. Mais on dit, on va remettre l'Internet quand tu cesseras de te plaindre que tu es fatigué. Bon,
Bien
ben,
sûr.
ils ont arrêté de se plaindre qu'ils étaient fatigués.
Hein, c'est une très... Mais est-ce que finalement,
C'est
si
la
on
même chose
pousse
avec les étudiants par rapport à l'intelligence
Bien sûr.
artificielle. Ils vont s'en
Hein.
apercevoir.
Et si on pousse un peu l'IA aujourd'hui avec la révolution de l'agentique, donc ce sont des ouvriers numériques qui travaillent pour lui, finalement, est-ce que ça ne va pas être de plus en plus un donneur d'ordre, donc quelqu'un qui fait plus grand-chose? Est-ce que ce n'est pas problématique que quand on faisait avant, ben, on voyait ce qu'on faisait, on pouvait l'ajuster. Quand c'est l'IA qui le fait, on donne des ordres et on lui demande de vérifier si c'est bon?
Ça va être un problème que je pense que les générations futures vont avoir à régler. Tout ce qui est automatique, ça va pour les premiers qui ont programmé l'automatisme, mais pour les suivants, ils ne savent pas comment. Si ça arrête, ils sont dépendants, ils sont impuissants. Ce qui fait qu'il y a des doses encore à ce qu'on peut automatiser, à ce qu'on doit automatiser. Ça, c'est effectivement un problème qui va ne faire que croître. Il y a beaucoup de. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à l'environnement. Et on dit, bon, la solution, c'est tout. Si chaque individu fait quelque chose, on va réussir à régler le problème. Je suis passablement en désaccord avec cette idée-là, dans ce sens qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas au niveau d'un individu. Au même titre qu'on n'est pas capable de fabriquer un chip d'ordinateur, personne n'est capable de fabriquer un chip d'ordinateur. C'est une création de groupe, c'est une création d'industrie, une création sociale. Il n'y a personne au monde qui est capable de créer un chip d'ordinateur. Et il n'y a personne au monde qui est capable de raffiner du pétrole. Je veux dire, c'est des affaires industrielles. Et le problème du CO2, c'est essentiellement un problème des énergies fossiles. Si chacun, on devait extraire notre charbon ou notre pétrole, le raffiner, etc., il n'y en aurait pas de problème parce qu'on ferait ça à des quantités ridicules. Le problème est à un niveau, il faut devenir un groupe. Le problème est à un niveau social, est à un niveau industriel, et la majeure partie des problèmes environnementaux sont des problèmes de cette taille-là. Ce qui fait que ce n'est pas au niveau individuel qu'on va régler ça. Et quand je regarde les solutions qui sont apportées, ben je me dis, bon, on n'y arrivera jamais, c'est toujours plus d'industrie, alors qu'il faut mettre au pas l'industrie, il faut la calibrer, il faut la contrôler, parce qu'elle est automatisée maintenant, et on l'automatise encore plus. Et bon, on ne saura pas avant longtemps comment ça fonctionne. Je ne sais
Bien
même
sûr.
pas comment un système. Tu sais, quand j'ai commencé en informatique, hey, on était capable de. On rentrait dans le système, on programmait des choses dans notre ordinateur. Aujourd'hui, j'ai même plus idée si ça se fait encore. Ça doit se faire, mais sûrement pas à ma portée.
Mais et avec l'IA, ça peut t'aider. C'est quand tu dis voilà ce que je veux, l'IA crée lui-même du code sans que toi, tu aies besoin de le guider, parce que tu n'y connais rien. Mais tu dis voilà ce que j'attends. Et donc, on peut par exemple faire un Serious Game. Alors évidemment, c'est un peu simple, hein, mais il le fait pour de vrai, avec le bouton entrée pour dire qu'on démarre. Et derrière, il se passe un jeu. Voilà. Et ça, je dis juste ce que je veux. Et donc, ça veut dire que derrière, on se retrouve avec une IA qui fait tout le boulot.
Ah ouais,
Et j'ai pas besoin de savoir.
c'est ça, on se ramasse dans Star Trek, là.
Oui, exactement. Ça veut dire qu'on rentre dans une autre façon et ça réinterroge la définition de l'homme. Quand il n'a plus la maîtrise, c'est un peu l'éloge du carburateur de Matthew Crawford, qui disait que, donc lui qui était aussi dans un think tank, il a arrêté ça pour, enfin, il fait pas que des carburateurs, hein, ils vend aussi des conférences un peu chères, mais ça veut dire que justement, il dit, quand je fais un carburateur, j'ai un problème, je crée une solution et je vois si le problème est résolu. Et ça lui donne une qualité de vie au travail qui n'a rien à voir avec le fait de donner des ordres qui seront vérifiés ultérieurement.
Oui. Ben, tu as sûrement essayé de faire des présentations avec l'intelligence artificielle. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Bon, je regarde ça. Esthétiquement, c'est supérieur à ce que je pourrais faire. En termes de vitesse, c'est. Au premier jet, c'est nettement supérieur. Sauf que le temps que je passe pour le rendre
Oui.
à ma satisfaction est plus élevé que si je l'avais fait directement sans passer par l'intelligence artificielle. Alors, je me dis, hop, là, j'ai un problème. Alors, ça déplace mon expertise, si tu veux. Là, il faut que je vérifie ce qu'elle dit. Il faut que je corrige certaines affaires qui ne me plaisent pas, etc. Puis là, je me dis, est-ce que ça me plaît ou pas? Alors que j'aurais pu le faire directement, puis que ça me plaise. Bon, ça, je ne sais pas comment les étudiants ou les enseignants vont gérer ça. Moi, j'imagine correcteur, aujourd'hui, correcteur de copies d'enseignants, d'étudiants. Je me dis, bon, j'ai 30 copies à corriger. Après, tous les étudiants sont servis d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'aimerais encore mon travail. Pour moi, ça devient insignifiant. C'est pas.
Alors,
D'ailleurs, les étudiants le disent, qu'ils apprennent moins.
en Europe, on a l'IA Act qui interdit le fait que les corrections se fassent par l'IA. Elles doivent être
Oui.
forcément supervisées par l'homme.
D'accord.
Mais
Mais là,
voilà,
tu as 30 travaux qui ont été faits par des étudiants qui ont
bien sûr,
utilisé
bien sûr,
l'IA. C'est
bien
un ennui mortel,
sûr.
je
Oui, complètement, bien sûr.
veux
Mais
dire.
c'est
Alors.
pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, d'abord, même quand ils font des présentations avec Gamma ou avec d'autres systèmes comme ça, la présentation est faite par PowerPoint, tout est propre, donc ça fait professionnel. Ils ont l'ordinateur devant et ils lisent ce que ChatGPT leur a écrit. Et donc, est-ce qu'ils ont compris ce que ChatGPT a dit? Souvent non. Et donc, ce qui devient intéressant, c'est de leur dire, tu fais ta présentation avec ChatGPT, tu la construis, etc. Tu mets ton ordinateur de côté, et maintenant, tu nous parles pour de vrai, et là, on te pose des questions. Et donc, on revient à l'origine et à l'oralité, parce que derrière, alors bien sûr, il s'est fait aider de ChatGPT, mais on voit s'il a compris ce qu'il dit. Et on s'aperçoit que souvent, non.
Alors, le travail qu'on fait quelque part à Top Cursus, c'est justement de cet ordre-là, dans le sens de sortir du discours conventionnel. D'ailleurs, souvent, quand j'ai des jeunes rédacteurs qui rentrent, ils se servent de ces outils-là. Je leur dis, OK, ça, là, c'est ce qui est convenu. C'est ce que l'intelligence artificielle se sert de tout ce qui a été écrit déjà, là. Et puis bon. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est le deuxième niveau, puis le troisième niveau, puis le quatrième niveau. Mais si tu restes à ce niveau-là, on ne prendra pas ton article. C'est clair. Et bien, il faut que tu poses des questions, il faut que tu relances la chose, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu travailles dessus. Et je pense
Exactement.
que les étudiants, c'est un peu ça qui doit leur être demandé. Maintenant, est-ce que ça les intéresse de faire ça? Nous, ça nous intéresse parce que, bon, on s'est développé comme ça, mais il y a des étudiants, ce n'est pas ça qui les intéresse. Il n'y a pas de flux. Dans ce sens-là. Ça ne les intéresse pas. Alors pourquoi les contraindre à faire quelque chose qui. On va perdre notre temps, là. Il n'y a rien qui va se passer. Ce qui fait
Ou
que.
ouais. Ou alors, il y a un livre très intéressant de Laurent Alexandre et de Olivier Babeau, Arrêtez vos études. Parce
Ben
qu'ils
oui.
disent, on vous forme à des choses qui sont déjà obsolètes quand on vous forme, donc vous n'êtes pas prêt d'être efficace. Alors que vous travaillez avec justement l'IA, donc ils sont très, c'est l'Institut Sapiens, ils sont très pro-IA. En tout cas, ils prennent des positions très fortes et j'aime bien les gens qui prennent ce risque. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça permet de réfléchir en se disant, comment est-ce qu'on peut intéresser les étudiants? Bah, tout simplement en captant l'attention. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont intéressés par rien. Donc, soit. Mais après, moi,
Ah
si
oui.
je suis formateur, mon rôle de formateur, c'est pas de leur dire la formation, puisque ChatGPT le fait mieux que moi. C'est leur dire, leur donner l'envie, être la contagion émotionnelle,
Exact,
les faire
exact.
kiffer, quoi.
C'est encore, on revient au principe de base, c'est susciter l'intérêt pour
Oui,
qu'il crée
exactement.
un flux entre le sujet. Puis quand le flux est épuisé, le sujet est compris, etc., ben on passe à autre chose. Et c'est ça qu'il y en a qui ont ça. Je pense qu'ils ont de la misère à comprendre. En fait, un des problèmes de l'école, entre autres, c'est ce que j'appelle la stratégie du groupe. Tu as tout un groupe, puis là, il faut que ton groupe avance à la même vitesse. Il y en a qui comprennent vite, puis il y en a qui ne comprendront jamais. Tu sais, ça fait que tu en perds un certain nombre en partant, puis tu en ennuies un autre nombre. Donc, il faut sortir de cette. Et c'est ce que nous permet maintenant l'intelligence artificielle. Je veux dire, le mode apprentissage, c'est extraordinaire parce qu'il voit rapidement ton niveau. Qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que
Oui,
tu ne maîtrises
exactement.
pas, il va t'amener à la maîtrise. Moi, je peux te dire, à l'école, j'ai été un mauvais élève au Québec, jusqu'en secondaire 3. En secondaire 3, pour la première fois, il s'est mis à avoir des cours de sciences, des vrais cours de sciences,
D'accord.
de physique, chimie, géologie, etc. Enfin, il y avait des trucs objectifs. Il y avait des trucs qui ne dépendaient pas d'un avis ou d'une exception ou quoi que ce soit. J'ai explosé là-dedans. Je veux dire, enfin. Et il y avait surtout un enseignant qui avait mis une méthode. Je ne me rappelle pas c'était quoi le nom de la méthode, mais ce qui est certain, c'est que c'était tous des petits blocs et on ne pouvait pas passer au bloc suivant avant d'avoir eu 100%.
D'accord.
Fait qu'il y avait pas de, il y avait quelque chose que tu n'avais pas compris, tu ne passais pas au suivant. Ce qui fait que, bon, ça allait très, en tout cas, moi, ça allait très vite. Et puis, bon, j'ai explosé là-dedans. Puis, bon, ça a orienté tout le reste de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai eu du succès là-dedans. Alors qu'avant, tu sais, moi, je me rappelle d'un truc qui s'appelait l'analyse logique. Je ne sais pas
D'accord.
si vous aviez l'équivalent en France, là. C'était en français. Et puis, pour moi, il n'y avait rien de logique. Je veux dire,
Ouais.
on donnait des termes, il n'y avait rien, il n'y avait que des exceptions, il y avait de la grosse misère, quoi. Alors, c'était pas drôle, tu sais. Heureusement qu'il y avait les mathématiques dans lesquelles je pouvais encore m'épanouir un peu, mais pour le reste, j'étais un très mauvais élève. Et tout ça parce que quelque part, on ne comprenait pas les mots, on ne comprenait pas le sens, on ne comprenait pas l'utilité, il n'y avait pas d'intérêt, puis on nous contraignait. Il y avait même des cours de latin. Je veux dire, il fallait faire du latin. Moi, j'adorais le latin pour les mots, mais pour le reste, traduire du
Ouais, ça.
Cicéron, je voyais pas grand,
Et c'est là où c'est intéressant de revenir sur la dimension sociale de la formation. C'est quand on crée un projet, qu'on arrive à exciter des gens ensemble. Bien sûr, il y en a qui décrochent, mais si on crée des solidarités et une communauté, donc du commun, on
oui.
s'aperçoit que dans ces cas-là, bah, celui qui est meilleur se dire je récupère celui qui est moins bon. Et donc dans ces cas-là, celui qui est moins bon se sent stimulé de pair à pair pour pouvoir se dire bah, dans ces cas-là, j'y vais parce que je ne veux pas être le dernier et donc je ne veux pas retarder le groupe. Et donc ça permet de créer, d'apprendre à être ensemble. Et ça, c'est des tendances importantes qui sortent de la philosophie de la formation qui émiettent les apprenants avec les relations apprenantes qui sont individualisées, etc. Et donc là, on refait de la proximité.
Et je pense que c'est excellent à la seule condition que les étudiants aient le droit de parler entre
Oui, sinon c'est un peu des,
eux.
sinon on reste tout seul.
C'est
Mais
ça, alors ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais effectivement, alors je dirais, on la voit se dessiner l'école du futur. On la voit littéralement. C'est pratique, sociale, échange, discussion, groupe. Elle est là, pour moi, l'avenir qui se dessine, là, avec l'intelligence artificielle dans le décor, évidemment.
Bien sûr. Et tu dirais qu'en entreprise, c'est la même chose?
Moins familier un petit peu. Ben quoi, moi-même, je suis une entreprise, je le vois, qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours l'impératif de production. D'ailleurs, je pense que c'est la semaine passée, j'ai écrit un truc, je disais, tant qu'il y a des marges de temps, si tu veux, tant que tout n'est pas Tant que tous les impératifs ne sont pas pour la seule rentabilité, oui, on peut voir, il peut avoir de l'apprentissage, comment je veux dire ça, de l'ouverture, mais quand tout est orienté sur le seul profit, ben non, il n'y a pas pour moi, c'est pas très intéressant. Vous dire, oui, vous allez faire de l'argent, là, mais c'est la seule chose que vous allez faire. Vous allez perdre votre vie, votre santé, etc. Votre famille, tout ce que vous voulez.
Donc, tu opposerais performance, productivité et bien-être?
Non, je n'oppose pas productivité, mais il n'y a pas que la productivité. En fait, oui. Il y a une optimisation et non pas une maximisation. Tu sais. Il y a bien des gens, c'est les profits à court terme et ça arrête là. Tandis que si tu vois ton existence à long terme, bien là, tu vas te commencer à t'occuper du bien-être de tes employés, tu vas te commencer à t'occuper de ton environnement, tu vas commencer à t'occuper de ton implication sociale, etc. Et tout va se mettre en place. Mais ça ne sera pas aussi rentable à court terme, mais à long terme, tu vas être encore là dans 100 ans. T'sais, ton entreprise va encore avoir du sens, puis elle va évoluer, elle va se transformer. Mais si tu vises que la rentabilité, je regarde juste une entreprise comme Boeing, qui n'est quand même pas une petite entreprise,
Bien sûr.
qui n'était focusée que sur le rendement, ben, ils ont perdu une qualité, ils ont perdu un esprit dans la boîte. Et puis, bon, à ce moment-là, c'est quoi qui se faisait comme formation là-dedans? Je l'ignore, mais c'est sûrement pas Il n'y avait sûrement pas beaucoup de formation sur le bien-être des employés, là, par exemple.
Mais c'est là toute la difficulté des entreprises, c'est qu'en fait, tout le monde essaie d'être gentil avec tout le monde, c'est bien évidemment, mais on ne sait pas comment piloter la performance, alors que tu es challengé par la concurrence. Donc comment tu pilotes ça, justement en tenant compte de bien-être? Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur le bien-être, le bonheur, etc. Et la grosse difficulté, c'est qu'en fait, les entreprises ont besoin d'être rassurées en disant, on ne fait pas ça à côté, ça a un lien direct avec la performance. Et donc simplement, le lien n'est souvent pas fait. Les budgets sont un peu séparés. On dit des soft skills, voilà. Mais comment est-ce que je mets les soft skills au service de la performance? Et là, tu refais du lien social. C'est-à-dire, tout le monde se
Ben,
bouge pour un projet.
oui, c'est la réalité. Juste ce matin, j'ai reçu un communiqué des chambres de commerce qui veulent faire un gros pool d'idées pour savoir comment orienter le développement économique, etc. Et la seule chose qui ressortait dans leur discours, c'était croissance, croissance, croissance. Alors que c'est évident qu'il faut sortir de cette logique-là, que c'est toujours plus, ça n'a aucun sens. Il faut en arriver quelque part à dire on vise un équilibre, on vise une paix, on vise une stabilité, on vise autre chose que juste augmenter notre croissance d'entreprise. Non, il faut sortir de cette logique-là. Et ces gens-là, et la bourse et tout ça, tu parlais de la pression extérieure. Il y en a toujours d'autres qui ne vont pas entrer dans cette mentalité-là, puis qui vont prendre ton marché. Tu sais, alors, tu fais quoi? Je n'ai pas la solution, mais il va falloir qu'à un moment donné, j'ai l'impression que la nature, notre environnement va nous imposer des choix, puis ben, si on ne les prend pas, ben, on va simplement disparaître. Mais
C'est
pour
pour
moi,
ça qu'il y a des tentatives, l'intelligence collective, l'entreprise apprenante, il y a des expérimentations qui se font, elles sont toutes bonnes. Souvent, elles sont portées par des gens qui y croient. Et pour moi, la clé, c'est que comme les gens y croient, ça marche. Hein. Mais derrière, c'est aussi une façon de redonner à l'apprenant, par exemple, lui redonner la main et faire en sorte que, sans que ce soit son seul rôle, mais qu'au sens noble du terme, c'est que le formateur devient un animateur.
Oui, comme l'enseignant va le devenir dans sa classe, là, ou dans son
Absolument, c'est
examen.
exactement ça.
Ça.
Donc ça,
Écoute,
c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Ah, OK.
Voilà, donc ça veut dire qu'on n'a pas vu que ça arrivait à la fin.
Non.
Justement, comment tu vois l'avenir de notre cursus, toi? Parce qu'à la limite, vu que tu es déjà un espace de veille, tu pourrais être aussi un espace de formatif, tu pourrais faire plein de choses, faire des grandes réunions sur la veille de tout ce qui bouge dans tous les domaines de la formation. Comment toi, tu vois l'avenir?
Ben, honnêtement, d'abord, l'avenir, il y a toujours un aspect commercial, là.
Bien sûr.
Actuellement, avec les changements dans les moteurs de recherche et tout ça, notre achalandage s'est effondré. Notre achalandage, je dirais, public, là, s'est effondré. On a toujours notre noyau dur, ça va bien. Bon, on reste vivant. Mais ce qui empêche qu'il va falloir s'occuper de cet aspect-là. Pourquoi qu'on ne fait pas de formation? Parce que on se rend concurrent avec nos clients. On ne fait pas de formation, nos clients en font. On ne fait pas d'événements parce que c'est une expertise en soi. On a déjà essayé et puis, oh, ça occupe passablement de. Il faudrait faire une branche événement, littéralement. Tu sais. Bon. Alors, je dis, bon, on va continuer de faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire du contenu. La forme va probablement changer, mais moi, je pense qu'on va toujours avoir besoin d'idées, puis c'est ce qu'on produit. Alors, il faut juste trouver la bonne façon de les mettre en marché. Puisqu'on est dans un marché.
Oui, bien sûr. Mais l'avantage, c'est la stratégie de la longue traîne. Comme tu as une belle communauté qui te suit, si cette communauté, tu la mets en interaction, tu discutes avec eux, tu fais remonter de l'information à partir de ce que tu descends comme article, etc., c'est l'occasion aussi de leur demander ce dont ils ont envie. Et peut-être à ce moment-là, le principe de la longue traîne, c'est faire des petits événements qui pourraient mettre en valeur tous les talents que tu as chez toi de cursus. Mais derrière, de partir de ce que les gens veulent et non pas essayer de vendre. Et donc forcément, le problème du référencement des SEO, c'est essentiel. Mais ta communauté peut petit à petit suppléer et finalement te donner des pistes de croissance extraordinaires, d'associations. On est surpris quand on anime ces communautés, évidemment, il faut les animer. Mais c'est vraiment très, très intéressant de voir qu'ils sont stratégiquement malins et ils sont prêts à s'investir quand ils y croient, même puisqu'on parlait d'économiquement, même au nom de la gratuité, pour dire je trouve que le projet en vaut la peine, et ils sont capables, autour d'une marque que tu fais vivre, de donner une vie nouvelle en redonnant la main à tes auditeurs.
Ben, je te dirais, je prends note. On a déjà essayé quelquefois d'animer des communautés. Bon, il y a 30, 40 personnes, et puis ça n'a jamais été au-delà. Je me dis, bon, peut-être qu'on n'a pas la bonne formule, peut-être qu'on n'est pas le bon média, peut-être parce qu'on est international que c'est plus difficile. Je n'ai pas la réponse, là. Il y a encore des nouvelles solutions qui apparaissent pour
Bien
ce
sûr.
genre d'animation-là. Et puis, bon. Il faut voir, mais il faut s'en occuper, comme tu dis si bien.
Mais c'est là où moi je trouve que la dimension internationale que tu as, il y a beaucoup de Français aiment bien Todd Cursus parce que c'est ce regard un peu différencié, même s'il y a beaucoup de Français qui écrivent aussi dessus. Hein. Et c'est intéressant parce qu'ils se disent, quand en France on veut connaître le monde, on n'a pas d'endroit pour l'apprendre.
Puis
Et
je te
donc ils sont
dirais,
vraiment.
on a quelque chose, il y a un axe sur lequel on a pris. Maintenant, on traduit automatiquement notre cursus en anglais, espagnol, portugais. Et ce n'est pas l'idée de faire des articles en anglais, c'est l'idée de promouvoir la culture francophone dans les autres langues. Parce qu'ils ne savent pas, les autres langues ont le même problème, je dirais, que les Français. On ne sait pas ce qui se passe dans le milieu espagnol. Si le milieu espagnol nous traduisait ces choses en français, ah, on en saurait un peu plus. Alors, nous, c'est ce qu'on fait pour faire rayonner la culture francophone dans les autres cultures. Bon, j'aurais aimé ça la traduire également en arabe et en cantonais. Cependant, la mise en page, ce n'est pas encore au point. On n'est pas capable de faire. Tu sais, quand les langues s'écrivent dans l'autre sens. Ça fait en sorte que toute notre structure graphique est incompatible, que ça ne marche pas, on n'est pas capable.
D'accord.
Mais je pense que ça s'en vient. Éventuellement, on va être traduit dans d'autres langues, dans des
Mais
langues
c'est passionnant parce qu'à la fois, c'est la diffusion du soft power, d'un regard particulier et qui est très attendu. Et puis à la fois, le fait de dire que c'est alternatif à l'égard d'autres médias qui sont anglophones avec une autre culture. Et l'autre élément, bah, ça te permet, toi, de relier le monde. Et ça paraît ambitieux, mais en tout cas, quand on voit. Numériquement parlant, enfin, il faut l'organiser, bien sûr. Mais derrière, il y a une vraie attente. Moi, il y a plein de gens qui me disent, en Asie, je ne sais pas comment ça fonctionne, la FEN n'y est pas parce qu'on n'y a pas beaucoup travaillé dessus, alors qu'il y a de vraies opportunités qui se font. En Afrique, on a des choses comme ça. Et c'est intéressant de relier les gens sur la connaissance que tu nourris, parce que si tu le relis, il faut bien les activer. Et donc, le média que tu portes, c'est un vrai beau projet. Je trouve que ça a une belle résonance dans les échos que j'en ai, mais en tout cas des gens qui m'interpellent. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, moi, j'aimerais bien avoir un lieu de veille sur des zones qui ne sont pas, allez, aux États-Unis, bien sûr, tout le monde connaît, enfin, il y a des lieux de veille connus, mais dans des pays qui sont un peu éloignés. Je pense à l'Asie, c'est
Ouais.
assez compliqué. Je pense à l'Afrique, c'est passionnant, ou d'autres
Oui,
pays.
bah, moi
Voilà.
j'ai quelques rédacteurs africains. J'ai déjà essayé d'avoir un rédacteur à Shanghai. Shanghai fait d'ailleurs des choses extraordinaires qu'on n'a pas idée. Les villes ont un rôle, les villes, la ville elle-même a un rôle d'éducation là, très important. J'étais fasciné, moi, de voir la force de la municipalité en éducation. C'est fascinant. Là. Ça se passe en dehors des écoles. C'est la municipalité qui forme les citoyens à toutes sortes de choses.
Et c'est passionnant de voir des pays, je pensais à la Corée du Sud, comment est-ce qu'ils ont remonté les piaques ou des choses comme ça, comment est-ce qu'ils ont investi dessus alors qu'ils étaient mauvais au début, en 55. Et donc, quels sont les investissements? Il y a des retours d'expérience aujourd'hui qui les met en Singapour sur tout ce qui est numérique, tout ce qui est mathématiques, c'est extraordinaire. Et donc, c'est des retours d'expérience que souvent on regarde, mais il n'y a pas beaucoup de médias qui relient les hommes et les expériences. Donc ça peut être un beau projet en tout cas. Bravo.
Oui.
Donc tous ceux qui veulent lire, on mettra les liens dans les notes de l'émission, les liens de notre cursus pour qu'ils puissent regarder, voir si ça les intéresse. Mais en tout cas, il y a tellement de belles choses dedans que bien sûr, on ne lit pas tout parce que d'abord, on sait un métier. Mais ensuite, derrière, vous trouverez toujours votre bonheur. Je trouve que c'est ça que j'aime bien chez notre cursus. Quand je l'avais découvert au début, puis on a eu déjà l'occasion de présenter parce que c'est un beau média. Donc merci beaucoup. Denis Lamontagne, qui est le fondateur de notre cursus.
Ben, ce fut un plaisir. Et puis, à la prochaine.
À très bientôt et avec plaisir pour une prochaine fois. Au revoir à tous, bye bye.
Marche. Bye bye.